Bonsoir. Le président de la République, Joseph Kabila, a totalisé mardi 26 janvier 2016 15 ans à la tête de la RDC. Selon le porte-parole du gouvernement, le bilan du chef de l'État est largement positif du point de vue politique, sécuritaire et socio-économique. Pour Lambert Mende, aujourd'hui, le pays est unifié. La situation socio-économique stable et des élections démocratiques s'y organisent grâce à Joseph Kabila. Quelle analyse faire du bilan de Joseph Kabila sur le plan politique, sécuritaire et socio-économique? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce jeudi 28 janvier 2016. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Dieudonné Mwenze, député national honoraire, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Mwenze, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kali.
Franck Diongo, député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste, MLP en cycle. Monsieur Diongo, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Et le professeur Bouendoua Elouga Essi, directeur du Centre des recherches et d'études sur l'Afrique orientale et les Grands Lacs. Professeur Bouendoua, bonsoir.
Bonsoir, maman.
Merci de nous suivre à Kananga, au Kasaï Central, sur la 93.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Kapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
En 15 ans de gestion de la RDC, le bilan du président de la République est plus que positif, estime Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Du point de vue sécuritaire, selon le porte-parole du gouvernement, Joseph Kabila a réussi à pacifier le pays et il a réussi à démocratiser le Congo en permettant au peuple de s'exprimer librement grâce aux élections. Lambert Mende le dit au micro de Berry Franklin Luchaka.
Tout d'abord, au moment où il accède au pouvoir en 2001, le président Joseph Kabila trouve un pays totalement déstructuré du point de vue de la sécurité. La preuve, c'est les conditions même de l'assassinat de son prédécesseur, le président Laurent Désiré Kabila. La preuve, c'est également le morcellement pratiquement de la République en trois entités contrôlées par des groupes armés divers et le troisième au niveau de la partie contrôlée par le gouvernement, ici en RDC. 15 ans après, ceci fait partie des souvenirs douloureux de notre histoire. Donc il a réussi à réunifier la République démocratique du Congo sur les 149 territoires que compte la République démocratique du Congo. Il n'y a plus que des opérations de police, appelons-les comme ça, pour la pacification définitive. Donc pour nous, c'est un bilan élogieux, un bilan plus que positif. Du point de vue politique, le défi auquel le président Kabila se confronte à son arrivée au pouvoir accidentellement, rappelons-le, en 2001, c'est le processus de démocratisation, c'est-à-dire redonner la parole au peuple, faire en sorte que plus une portion du pouvoir ne puisse être exercée autrement qu'à la suite d'élections. Nous avons bien sûr quelques problèmes ratés à cause des problèmes financiers pour la poursuite du processus, mais il a réussi à mettre en place le processus de démocratisation. Il a réussi à rapprocher les gouvernants des gouvernés par la décentralisation voulue par le peuple congolais en proposant une constitution de décentralisation en 2006 qu'il essaye vaille que vaille de mettre en place avant la fin de son deuxième mandat. Donc là également, je pense qu'il faut être de mauvaise foi pour estimer que le bilan n'est pas positif.
C'était là Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Dieudonné Mwenze, je rappelle que vous êtes député national honoraire, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. On va commencer par l'aspect politique et sécuritaire. On vient de suivre le porte-parole qui estime que le bilan est largement positif concernant ces deux aspects. Est-ce que vous partagez son point de vue?
Madame Kelly, acceptez d'abord que je profite de votre micro pour souhaiter bon anniversaire au chef de l'État Joseph Kabila ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Sur le plan politique et sécuritaire, madame, je crois qu'il n'y a pas à ajouter par rapport à ce que je viens d'entendre, et nous venons d'entendre tous du porte-parole du gouvernement, et qui sont censés, je parle des membres du gouvernement, qui sont censés détenir les preuves et les données chiffrées par rapport aux réalisations pendant les 15 années passées. Et je voudrais simplement dire sur le plan politique, c'est d'une notoriété connue de tout le monde, que Joseph Kabila a dû travailler très ardemment pour qu'il puisse faire ce qu'il pouvait faire, et notamment la réunification du pays, et ça, personne ne peut nous le contredire. Et à son arrivée en 2001, le pays était pratiquement au bord de l'implosion, un pays pratiquement balkanisé, et on ne pouvait pas partir d'un point vers un autre, ce qui nous restait, c'était avoir les visas. Et Joseph Kabila, quand il est arrivé, il a relancé le dialogue intercongolais, que lui-même n'avait même pas d'ailleurs initié. Et c'était un courage. En plus de cela, il a démocratisé le pays, ça c'est connu, puisqu'avant lui, il n'y avait pas d'autres élections. C'est avec lui, en 2006, avec ce gouvernement de 1+4, sous son impulsion, qu'il a dû organiser les élections de 2006 et les élections de 2011, malgré tout ce que l'on peut avoir comme faiblesse, puisqu'il s'agit d'une everyman. Mais en dehors de ça, il a doté le pays d'une constitution démocratique, puisque là, et les gens ne semblent pas beaucoup en parler, puisque la constitution sur laquelle beaucoup jurent aujourd'hui, c'est une constitution signée par Joseph Kabila en 2006. Et alors qu'avant ça, nous n'avions presque pas de textes légaux convenables.
Constitution voulue par le peuple.
Oui, voulu par le peuple, soumis au référendum auprès du peuple, par le gouvernement qui dirigeait Joseph Kabila. Il a aussi élargi les libertés d'expression et même d'autres libertés. Il faudra aussi que l'on insiste là-dessus. Puisque, comme vous le savez, avant Joseph Kabila, les maisons de presse étaient à compter au bout des doigts et nous le connaissons bien. Mais c'est après 2001 que vous avez connu tout ce qu'il y a aujourd'hui comme mosaïque de maisons de presse et vous êtes de la presse vous-même, donc vous en connaissez un peu plus que moi.
Et même des libertés. Il y a des maisons de presse qui ont été fermées pendant ce régime.
Là nous y reviendrons, puisque comme vous le savez, les maisons de presse fonctionnent suivant un certain nombre de règles et de lois. On ne peut pas dire qu'on est dans la jungle, puisqu'on a donné des libertés, on a accordé des libertés de presse aux maisons de presse, qu'il faut les exercer de n'importe quelle façon. Donc le gouvernement doit veiller à ce que les libertés de presse soient convenables, mais d'autres libertés exercées dans les normes et dans les limites.
Vous avez parlé des libertés d'expression.
Oui, des libertés d'expression également. Puisqu'aujourd'hui, vous connaissez, vous suivez la presse et vous êtes dans les médias. Et aujourd'hui, ce que vous entendez, il y a 20 ans, 30 ans, on ne pouvait pas entendre ça. Ça, c'est, je le dis sincèrement, je crois que nous vivons dans ce pays.
Il y a des gens qui se font arrêter après avoir donné un point de vue contraire au gouvernement.
Madame, ce sont des cas isolés, des cas mineurs, mais ce que nous connaissons, c'est un peu plus grave. Je crois que ce sont ceux-là qui ont excellé, qui sont allés au-delà, qui ont franchi les limites. Je crois qu'ils se sont peut-être senti interpellé, mais ce ne sont pas des cas très fréquents. Mais la vérité, c'est que quand vous suivez les médias, que ce soit l'audiovisuel ou bien les médias écrits, vous rendrez compte que Joseph Kabila et même tout son gouvernement est attaqué tous les jours alors. Mais ça n'arrive pas que l'on puisse inquiéter les gens tous les jours. Mais
je voudrais aussi dire qu'il y a eu des... harcelée. L'opposition se plaint d'être harcelée par le pouvoir en place.
Non, je crois que les opposants de bonne foi ne peuvent pas le dire. Hein. Ils savent qu'ils exercent convenablement leur prérogatives, même leurs libertés. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des cas isolés, et des cas isolés méritent d'être rappelés à l'ordre. Et sur le plan sécuritaire, comme vous l'avez dit, j'ai parlé de la réunification du pays, il s'agit de la sécurité du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons encore quelques soubresauts à l'est du pays, mais la vérité, c'est que, du moins, nous pouvons partir du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans pour autant être inquiété. Mais je disais aussi que beaucoup de groupes armés ont été anéantis, même si aujourd'hui nous parlons des FDLR, des FNALU, des ADF NALU plutôt, et nous parlons des FPRI. Mais je crois que ce qui est important, c'est que déjà beaucoup de groupes armés ont été anéantis.
Mais entre-temps, il y en a encore qui sèment la désolation.
Oui, c'est ce que j'ai dit, que ce n'est pas parfait jusque-là. C'est pour cela que nous disons que le bilan est largement positif, mais nous n'avons pas dit que tout a été réalisé.
Largement positif avec des poches d'insécurité.
Oui, avec des poches d'insécurité, comme ça existe aussi un peu partout ailleurs. Et nous, nous sommes un pays post-conflit, vous comprenez que ça doit poser problème. Mais j'ai terminé aussi en disant que nous ne devons pas manquer de signaler les réformes entamées dans l'armée. Aujourd'hui, le pays a une armée républicaine, alors qu'avant 2001, le pays n'avait presque pas d'armée.
Merci de donner, Moïse, je vous donne la parole tout à l'heure. France Kodjongo, député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lumumbis Progressiste, MLP en sigle. Quel est votre bilan à vous des 15 ans de Joseph Kabila à la tête de la RDC sur le plan politique et sécuritaire?
Madame Kelly, c'est un honneur pour nous de nous avoir associés ce soir. Je viens d'attendre que ce soit de la bouche de M. Mende et de l'honorable Dieudonné Moïse ce soir est un acte d'insulte au peuple congolais. C'est une honte pour la République. Tenez. Sur le plan politique et sécuritaire, et globalement même, le bilan de M. Kabila est totalement et largement négatif.
Pourquoi, selon vous?
À tel point que M. Kabila représente un espoir déçu. J'ai suivi les déclarations de contre-vérité de mes frères qui sont dans l'axe du mal. Je vais tenter de vous ramener point par point. Au niveau, bien entendu, de réplique par rapport à ce qu'ils ont dit, avant que je n'avance, la réunification du pays. Mais il faut un peu du respect à Moïse Kabila. Pourquoi ils n'ont pas de respect à Moïse Kabila? Parce que Moïse Kabila a signé l'accord de Lusaka. Ce n'est pas Moïse Kabila qui a signé l'accord de Lusaka pour mettre un terme à la guerre. C'est Moïse Kabila. Le dialogue intercongolais a pour base légale l'accord de Lusaka. Et c'est Moïse qui a mis un terme à la guerre.
Mais c'est pas le président Joseph Kabila.
Monsieur Kabila a trouvé l'accord de Lusaka déjà signé. Il n'a ramené que il a poursuivi les dialogues intercongolais.
Mais c'est déjà quelque chose.
Monsieur, madame, le président Massiré a été nommé avant que Moïse ne meure. Il faut rétablir la vérité. J'ai un peu de respect pour Moïse Kabila, s'il vous plaît. Deuxième chose. Et puis même le fait de la réunification. Il faut quand même mettre un point. Je suis un des signataires de l'accord global inclusif pour mettre un terme à la guerre, à Sand City. Monsieur Kabila, quand il a négocié avec les opposants et le rebelle, il n'avait pas un président qui a partagé son pouvoir avec les autres, tel que j'entends. Tous les participants au dialogue intercongolais et que tous les Congolais me suivent avaient un statut identique. C'est-à-dire, et M. Kabila, et M. Bemba, et M. Nusumba, qui étaient, chacun avait un territoire, avaient un statut identique au dialogue intercongolais.
Mais après
laissez-moi vous dire, madame, le peuple congolais a besoin d'une vérité.
Mais après le dialogue,
est-ce que je peux terminer, madame?
Allez-y.
Au dialogue intercongolais, il faut voir la constitution de la transition. M. Kabila a été reconnu président dans le dialogue intercongolais. C'est-à-dire que on ne pouvait pas ne pas le reconnaître, parce qu'on devait devenir président à Sand City. C'était un consensus qu'on a accepté qu'il soit président. C'était un compromis politique. La constitution dont on parle, c'est le fruit d'un compromis politique, madame. C'est pas M. Kabila qui a donné aux Congolais un compromis politique et qui a donné aux Congolais une constitution. M. Kabila, où il a accepté l'accord politique, où il était chassé par la guerre.
Il a organisé les élections en 2006.
Laissez-moi terminer, madame.
Tenez compte du temps, monsieur.
Au niveau sécuritaire, au niveau politique et sécuritaire, il y a un recul par rapport à Maréchal Mobutu. Sur le plan sécuritaire, c'est une honte pour la République. La guerre contre FDLR, contre ADF Nalu, à l'est de la République, M. Kabila a été capable pendant les 15 ans d'instaurer l'autorité de l'État dans tous les pays. Chaque jour, les gens de l'est se sont massacrés. Au Katanga, au nord et sud Kivu, on ne reconnaît pas l'autorité de l'État. Donc, sur le plan de la démocratie, vous allez noter, Madame Kelly, que c'est un grand recul. À tel point que, aujourd'hui, pendant les deux mandatures, M. Kabila est élu, pour nous. Et la première partie qu'il avait pris le pouvoir dans des circonstances obscures, à ce jour donc, il ne sait pas, madame, garantir que l'opposition ait un porte-parole, parce qu'il ne veut pas que l'opposition s'organise. Aujourd'hui, les gens du G7, par exemple.
Mais vous parlez librement quand même.
Les gens du G7, par exemple, aujourd'hui. Les gens du G7, aujourd'hui, ne peuvent pas exercer leur activité politique. On bâillonne la presse. Les opposants ne sont pas libres d'organiser des manifestations. Je vous donne un point de figure. Il n'y a pas une semaine ici, il n'y a pas 3-4 jours, c'est Sanga a fait un point de presse ici, au niveau de Septane. On a arrêté les combattants dans une réunion à l'intérieur de l'église.
Merci. Merci, M. Diongo, professeur Bouendoua Enouga Essi, directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique centrale et les Grands Lacs. Professeur, quel est votre bilan à vous sur le plan politique et sécuritaire?
Merci. D'abord, je veux bien d'abord saluer honorable Moïse et honorable Diongo et vous-même, Madame Kélin Kouté. Je vous souhaite toutes les bonnes choses et toutes les bonnes sauces, si vous voulez.
Merci.
Alors, je pense que je suis quelque peu partagé, mais pas dubitatif. Je pense que parler d'un bilan, ça dépend de ce qu'on en fait, soit pour faire l'inventaire ou bien tracer des perspectives. Et s'agissant du président de la République actuelle, je pense que je ne ferai pas mal à l'honorable Diongo et à l'honorable Moïse si je disais que il n'a mérité ni un excès d'honneur ni cette indignité, pour paraphraser bien Jean Racine. Mais moi, quand je vois le président Kabila, je vois l'homme, je vois le système. Quand je regarde l'homme, je sais que c'est un homme issu d'un système qui commence par l'AFDEL. Je le vois avec beaucoup de gens avec lesquels il est venu, les Massasunindaga, les Bouguera, les Kabarebe, les Mwenze Kongolo, les Bizimakara, les Movasakani, tout un tas de gens qui constitue au fait une sorte de pépinière de ce que va devenir le reste de ce système. En même temps, j'ai comme l'impression que quand je parle du président Kabila, j'ai deux idées en présence, deux expressions qui peuvent bien lui coller. Je parlerai d'abord d'une sorte d'absence présente et de présence absente. Une absence présente, c'est quand il passe tout son temps dans l'ombre, en filigrane de son père, manœuvrant beaucoup de choses, la guerre de l'AFDEL, beaucoup de choses, beaucoup diplomatiquement. Il est bien là, il est présent sans qu'on le dise. Donc, parler du bilan, c'est aussi parler du bilan de l'AFDEL qui ne doit pas être laissé. Et donc, on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, mais excusez-moi l'expression. Mais j'ai comme l'impression qu'on doit remonter aussi, faire son bilan, remonter à cette époque-là. C'est une période quand même tout à fait qui explique le personnage, qui explique l'homme et qui expliquera plus tard le système. Deuxième phase, c'est vraiment la phase où il est président de la République de 2001 à ce jour, moi, je qualifie cette période de présence absente. Mende lui-même avait taxé le président de la République d'être taiseux, si bien que quand on ne peut pas savoir grosso modo ce qu'il pense, ce qu'il dit, ou bien fait dire des choses, ou bien il fait faire des choses. Et cela nous donne l'impression assez souvent, en termes d'analyse, que nous avons une sorte de navire où le capitaine semble voguer à bâbord et à tribord, sans boussole, sans cap, et cela donne un peu de tournis à ceux qui analysent. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que l'homme, le président de la République que nous avons actuellement, si c'est en termes d'inventaire, si en termes de bilan, nous avons quelqu'un qui hérite du Kabila père, il est lui-même le Kabila fils, et je pense qu'avec le dialogue, on peut penser qu'il prépare le Kabila Saint-Esprit. Mais dans les trois, nous allons nous retrouver dans une sorte d'analyse où peut-être il faudra bien qu'on puisse aussi parler du système. Et là, je pense que l'honorable Moïse sera beaucoup plus outillé que moi, mais je pense qu'au moins j'ai planté les termes du décor et du débat.
Alors, professeur, lorsqu'on parle du processus des démocratisations, du côté de la majorité, on dit que ce processus est une réussite. Et de l'autre côté, dans l'opposition, on parle d'échec carrément. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, j'en pense. Je me suis mis à lire tout à l'heure le discours qu'avait fait le président de la République le 26 janvier 2001. Et donc, vous voyez déjà que ça commence à dater en termes d'anniversaire, vraiment, on peut dire. Et je repérais cet élément tout simplement, où il disait qu'il va faire toute la lumière sur les circonstances de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en dire actuellement, mais bon, Franck Diongo va nous dire quelque chose, et bien l'honorable Moïse. En deuxième lieu, il disait qu'on va instaurer la paix et la consolidation de la communion nationale. Bon, on peut en
chose
dire.
Chose faite ou pas?
C'est à boire et, il y a à boire et à manger, et je pense que la paix, ce n'est qu'une paix relative, et une paix, ce n'est pas l'absence de guerre, mais grosso modo, là, je pense que les résultats sont en demi-teinte.
Troisièmement,
il fallait promouvoir une politique qui privilégie le dialogue et la réconciliation nationale, base même de la concorde. Grosso modo, c'est un leitmotiv, c'est une idée qui est toujours d'actualité, dialogue, son contenu par le passé, peut-être qu'il ne peut pas assurer le contenu dans l'avenir, parce que le concept de dialogue paraît être un fourre-tout.
Alors, mais on peut dire que c'est un bilan mitigé, selon vous, professeur?
Un bilan, non pas mitigé, qui a ses hauts et ses bas, qui a ses réussites et ses échecs, mais les échecs les plus patents ne plaident pas pour, non pas la continuité, mais à tout le moins pour la continuation des systèmes et des méthodes qui se sont appliquées.
Merci, professeur Bouendoua. Le bilan socio-économique de Joseph Kabila depuis son accession à la magistrature suprême est aussi positif. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, en veut pour preuve la stabilisation du cadre macroéconomique et la stabilisation du taux d'échange. On l'écoute une fois de plus au micro de Berry Franklin Louchaka.
Du point de vue socio-économique, je pense que nous étions également dans un pays où chaque jour se levait avec son taux de change au niveau des ménages. On ne pouvait pas être assuré de pouvoir prévoir des dépenses, même de ménage, a fortiori en ce qui concerne les dépenses d'ordre économique pour les opérateurs économiques, de quelque taille que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays stabilisé à cet égard-là. Nous avons un taux d'inflation qui est proche de zéro. Nous avons, en dépit des difficultés de l'économie mondiale, réussi avec Joseph Kabila à stabiliser notre économie à ce niveau-là. Les grands paramètres macroéconomiques sont au vert. Nous avons un taux de croissance qui avoisine les 8%, alors que pour l'ensemble de l'Afrique, il est proche de 3,8%, et pour l'ensemble du monde, notamment les grands pays industrialisés, il ne dépasse même pas 3%. Je pense que cela est également à mettre à son compte, à son actif, et que là aussi le bilan est élogieux, même si on peut poser des questions sur l'inclusivité de cette croissance qui est à construire. Mais vous savez, le monde ne s'est pas fait en un seul jour. Il faut commencer d'abord par produire de la richesse avant de penser à sa répartition.
Bilan élogieux, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement sur le plan socio-économique.
Madame, avant d'entamer les réponses par rapport au plan économique et social, acceptez que je puisse revenir sur les propos de tout à l'heure. Je venais d'entendre de l'honorable Franck Diongo. Non, je crois qu'il faut rétablir la vérité. Je sais que par moment, l'honorable Franck Diongo fait parler son cœur et par moment, il est dans les sauts d'humeur, je comprends. Mais je crois qu'à un certain moment, quand on est dans une phase de débat comme celui-ci, il faut beaucoup plus faire résonner aussi la tête. Et il est vrai que Moussa Laurent Désiré Kabila avait nommé Massiré et que le dialogue intercongolais avait commencé avec lui. Mais Franck Diongo sait bien, mon ami, que le dialogue intercongolais avait été bloqué. Moussa Laurent Désiré Kabila, il ne va pas nous apprendre à respecter Moussa Laurent Désiré Kabila. Nous sommes les premiers respectueux de Moussa Laurent Désiré Kabila. Mais nous savons simplement que à une période de l'histoire, nous étions avant 2001, Moussa Laurent Désiré Kabila avait carrément récusé Massiré, même stoppé l'évolution du dialogue intercongolais. C'est Joseph Kabila qui est arrivé, qui a dit que partout où la paix du pays et l'unification du pays va lui demander d'être, il va être là. Et il l'a fait et il a débloqué le processus. C'est ainsi que nous disons que lui a relancé le dialogue intercongolais. Donc ça doit être dit. Mais j'entends aussi que les fractions ou les rébellions étaient à même égalité avec Joseph Kabila. Non, il dit qu'il est signataire de l'accord global inclusif. Il est bien dit
pour la représentation de Joseph Kabila ou le groupe qui a accompagné Joseph Kabila, il est bien clairement dit qu'il s'agit de la partie gouvernementale. Mais les autres ne sont pas de la partie gouvernementale. Et la partie gouvernementale, ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie régulière. Donc les autres étaient dans la rébellion et c'était clairement dit. Je voudrais terminer avant de revenir sur le plan socio-économique en disant qu'aujourd'hui, il ne faudra pas que l'on parle des guerres classiques à l'Est. Et c'est le terrorisme, nous connaissons. Hein, et les FDLR font pratiquement du terrorisme et la guerre pratiquement à l'Est est pratiquement enrayée. Donc ça doit être dit. Et les libertés d'expression, là je crois que Franck Diongo lui-même est l'exemple de cette liberté d'expression.
Alors,
ça ne peut pas être dit autrement. Alors la période 2001 à 2006 est une période où Joseph Kabila a géré le pays avec quatre personnalités à ses côtés, mais la période de 2006 à 2016 semble être une période où, de manière démocratique, Joseph Kabila a été président de la République. Mais sur le plan économique, beaucoup de choses ont été faites. Je crois que nous devons commencer par la libération de l'économie nationale. Vous vous rappelez qu'avant 2001, pratiquement pour les produits pétroliers, nous faisions des nuits dans les stations d'essence. Et quand Joseph Kabila a dit, 3-4 jours après, il arrive, le secteur économique, et surtout quant à ce qui concerne les produits pétroliers, est libéralisé et aujourd'hui nous n'avons pas à faire des files d'attente dans les stations d'essence. Mais il faut aussi avouer qu'aujourd'hui nous parlons même de la bancarisation des salaires. Aujourd'hui les agents de l'État ont des salaires bancarisés. Pas simplement que nous pouvons dire que les salaires sont minimes. Enfin, oui, mais il y a des problèmes, ça je sais. Mais nous ne pouvons pas aussi dire simplement que les salaires sont minimes. Mais ça donne la possibilité aux bénéficiaires de ces salaires de pouvoir ne fût-ce que contracter des crédits auprès de ces banquiers. Mais aussi nous pouvons parler de la régularité de ces salaires même, du paiement de ces salaires. Aujourd'hui, nous savons bien qu'avant le 31 ou le 30 de chaque mois, chaque agent de l'État est du moins payé. Ce qui n'était pas encore possible il y a 30, il y a 20... 20-25 ans. Nous pouvons aussi parler de l'atteinte du point d'achèvement. Nous étions criblés de dettes. Sous l'impulsion de Joseph Kabila, vous savez que nous avons atteint le point d'achèvement et nous avons amélioré nos relations avec les institutions de Bretton Woods. Nous pouvons aussi parler de la stabilisation du cadre macroéconomique. Taux d'inflation moins de 0,8%. Alors que nous vivions au taux du jour, et Franck Diongo le sait, que nous vivions au taux du jour, vous trouvez un pain le matin, vous n'êtes pas sûr d'avoir le même prix le soir. Mais je vais terminer en disant que nous avons également amélioré l'indicateur de développement humain, l'IDH. Nous étions autour de 190e place. Aujourd'hui, ici, je ne parle que de la période 2014, où nous étions à 187e place. Aujourd'hui, en 2015, nous sommes à 174e place. Donc, nous sommes en train d'améliorer et nous avons l'espoir qu'en 2016, ça va s'améliorer davantage.
Merci Dieudonné Moïse. Franck Diongo, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui a donné le bilan, qui a dressé son bilan à lui sur le plan socio-économique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais répondre, mais une petite mise au point. Là, je réponds pas comme politique, mais comme chercheur sur la question congolaise. Je serai l'honorable Dieudonné Moïse n'est pas informé. Dans l'accord de Lusaka, tous les participants au dialogue intercongolais avaient le même statut identique. C'est comme ça que vous trouverez que les PPRD dont il est membre n'étaient pas encore nés au moment de la dialogue intercongolais. C'était la composante gouvernement comme composante RCD, composante MLC, parce que il n'y avait pas un parti du côté du gouvernement, donc c'est le gouvernement qui répondait. Mais au niveau de la considération, vous trouverez que la composante gouvernement aura 94 députés comme le RCD, comme l'opposition, comme le MLC. Donc c'est l'égalité des sorties. Au nombre des vice-présidents, ils avaient l'égalité des vice-présidents. Donc ça, ce sont des choses où il faut restituer l'histoire comme chercheur. Alors, au niveau de la réplique, tenez, je continue à déplorer que mes frères qui sont dans l'axe de mal continuent à énerver le peuple congolais avec les affirmations. Tenez, sur le plan de la gouvernance politique, je vous ai dit qu'il y a une mauvaise gouvernance politique, sociale, économique et partout, et les bilans sont totalement négatifs sur tous les secteurs, sur le plan socio-économique. Quelle est la conséquence de la croissance dont on vante? Les indices sont là. Le pays est parmi les 10 pays les plus corrompus de la planète. Large et forte corruption. 2. Le taux de pauvreté supérieur à 73%. M. Kabila n'a pas su combattre la pauvreté. 3. Le taux d'inégalité supérieur à 43%. Une grande profondeur. Le taux de mortalité très élevée. L'espérance de vie, 40 ans. Les déficits à logement, 1 200 000 par an. À 15 ans, vous comprenez, combien de logements M. Kabila a construit? Nul. Quand j'arrive, le taux de chômage, supérieur à 80% de la population active. Quand je vois les portefeuilles de l'État, les entreprises que M. Kabila a trouvées,
mais le gouvernement dit avoir créé plusieurs emplois, 46 000 emplois.
Par rapport au taux de chômage, ils ont réduit de combien, madame? C'est ça qu'ils ne savent pas vous dire. Ils ont réduit de combien? Les entreprises que M. Kabila a trouvées dans 15 ans, ils ont privatisé et libéralisé toutes les entreprises, y compris la SNEL et la Régie des Eaux. On a ouvert au privé. Ils ont ça. Alors que la population congolaise, Madame Kelly, le taux de dessert à nous n'est qu'à 24%, c'est-à-dire 76% des Congolais n'ont pas accès à l'eau potable. En électricité, vous n'avez que 6% des Congolais qui accèdent à l'eau potable. Ça veut dire 94% n'ont pas vu la poule. Mais alors, quand on nous parle de croissance, quelle est la conséquence de cette croissance-là par rapport au chômage et au niveau de vie? Non, madame. Et en privatisant toutes les entreprises, en libéralisant toutes les entreprises, aujourd'hui, c'est une politique non adaptée à la situation, au contexte du Congo et des Congolais. Vous trouverez de la même manière qu'ils ont bloqué, bien entendu, ils ont bloqué le processus électoral à volonté démocratique. Aujourd'hui, M. Kabila est l'obstacle du processus électoral. Parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Parce qu'il veut instaurer une démocratie octroyée en résidence et surveillée. Donc,
et donc, vous voulez dire, monsieur, si on vous comprend bien, monsieur Diongo, pour vous, la situation.
Mais le pouvoir d'achat, madame.
N'a pas changé.
Non.
Malgré la stabilisation du cadre macroéconomique, malgré que le taux de croissance avoisine le 8% selon le porte-parole.
Le pouvoir d'achat, maman, le pouvoir d'achat. Parce que M. Meda a parlé du panier de la ménagère. La vie, la cherté de la vie n'a pas été combattue. La vie restait trop chère. Du point de vue du travail, parce que la conséquence de la croissance a un impact et dans la vie sociale et dans le travail. On a arraché aux Congolais la chose la plus chère, le travail. L'indigence de l'emploi, M. Kabila n'a pas résolu. Les Congolais restaient sous-payés, mal payés et impayés. Les salaires restent les salaires de misère, madame.
Merci, M. Diongo, professeur. On va aborder cet aspect avec vous cette question qui nous vient de Goma, au Nord Kivu pour vous.
Fikiri Tomba depuis Goma dans la province du Nord Kivu. À mon avis, dire que le bilan du président est largement positif, c'est trop fort. Certes, il y a le point positif et négatif. Théoriquement, le pays est unifié. Mais sur le terrain, l'État a du mal à asseoir son autorité sur toute l'étendue du territoire. Sur le plan sécuritaire, tous les jours, on déplore les morts. Sur le plan économique, la vie des Congolais est déplorable. Car la distribution est inéquitable. Une économie monotone basée sur les minéraux, alors que ça chute du jour au lendemain. Enfin, sur le plan démocratique, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À l'allure où nous allons, les élections deviennent hypothétiques, car rien n'est fait à quelques mois des élections. Je suis de ceux-là qui craignent un vide juridique à la fin du mandat du président, au motif qu'il n'y a pas eu les élections.
Réaction, professeur Bouindoua.
Oh oui, je reste toujours avec mon paradigme de présence absente et d'absence présente, mais si on regarde un tout petit peu ce que viennent de dire mes amis, les honorables avec qui je suis devant vous, maman, je pense que si on regarde bien la scène politique, si on regarde l'homme Kabila, le système Kabila, et qu'on veuille bien faire un bilan pour l'inventaire, ou bien pour une perspective, une prospective, je pense qu'on doit quand même aussi se mettre à se demander certaines petites choses, mais aussi à observer que si on doit qualifier un tout petit peu la gouvernance telle qu'on l'a vue, on peut dire qu'elle est caractérisée par une tiédeur idéologique, une sorte d'équilibrisme politique où on mélange les mobutistes, les kabilistes paternels et filiaux, où on mélange beaucoup de choses à telle enseigne qu'on n'arrive pas vraiment à bien déceler les choses. Et enfin, une sorte de froideur économique, sociale et culturelle. Et une fois que je dis cela, j'aimerais bien peut-être analyser un peu plus davantage.
Allez-y, professeur.
On se retrouve donc devant une situation où réellement, si on doit faire le bilan économique, politique, culturel, social, on doit bien admettre que grosso modo, l'homme Kabila, s'il est bien l'héritier biologique de son père, il n'en est pas du tout l'héritier, comment dirais-je, politique, idéologique, culturel. Parce que beaucoup d'éléments montrent très bien qu'on ne peut pas arriver à savoir réellement où on va, et comme on ne sait pas réellement d'où on vient, on ne se situe pas dans l'actualité, et comme on ne peut pas se projeter dans l'avenir, cela nous fait quand même douter. Les élections, c'est vrai, ça devient une sorte d'arlésienne. Là où il faut dire quelque chose, on ne le dit pas. Le passé, on commence à maquiller des chiffres, parler du, comment s'appelle, ce que on dit, ce que mes amis viennent de dire tout à l'heure, du cadre macroéconomique. J'aime pas beaucoup l'expression, j'ai enseigné pendant très longtemps les sciences économiques. Bon, ça peut être beau, c'est une sorte de tarte à la crème, une sorte de pense bête qu'on aime bien. Mais moi, en lieu et place, j'aime bien le Keynes, ce qu'on appelle le carré magique de Keynes. C'est-à-dire, on va voir l'inflation, le chômage, la balance du commerce extérieur, la croissance. Si on regarde l'inflation, c'est vrai qu'on peut se gargariser avec des bonnes idées. Le chômage, il est galopant. Vous pouvez pas vous imaginer la misère quand on la rencontre dans la ville de les étudiants que nous formons qui jamais n'arriveront peut-être à obtenir un emploi à moins qu'ils aient des points sexuellement transmissibles ou bien qu'ils puissent faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas admettre. Et je pense que la question du chômage a été le plus grand raté parce que nous formons des générations d'étudiants qui sont au chômage et que à telle enseigne qu'à la cité, on n'arrive plus à se demander à quoi servent les études. Et une fois qu'on a dit cela, je pense qu'on doit se dire que il est temps peut-être de changer de fusil d'épaule et que ce soit le président lui-même qui nous dise vraiment comment on peut réarmer le moral des populations qui sont quelque peu déboussolées et pour arriver, c'est vrai, à mettre en place un consensus politique qui donne de l'espoir, qui donne la vie et qui donne l'envie aux uns et aux autres de vivre le cadre de notre pays.
Merci professeur Dieudonné, monsieur Dieudonné Moïse. On va prendre aussi pour vous cette heure réaction qui nous vient de Butembo, au nord Kivu toujours.
Je nous viens à Butembo, province du nord Kivu. À Kenza, le bilan des chefs de l'État avec la messe de l'équerre, sur le plan politique, les chefs de l'État unifient le pays en organisant pour la première fois les élections démocratiques, paix de liberté des droits de l'homme, compte positif. Mais la prise en otage de la RDNC, la prise en otage de la justice, car la porte de la prison n'est ouverte que pour les opposants et non pour les détourneurs. B. Sur les plans sécuritaires, le chef de l'État n'a pas réussi à contrôler toute l'étendue nationale, sécuriser le peuple et leurs biens. La réforme de l'armée a échoué. 3. Sur les plans socio-économiques, nous avons vu les infrastructures construites, la stabilisation des cadres macroéconomiques, mais les conditions de vie des peuples restent échangées. La gratuité de l'enseignement primaire, les bourses des étudiants. En général, le bilan de 15 ans des chefs de l'État est plutôt mitigé que positif.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Moïse?
Non, madame, je crois, avant de répondre à votre auditeur de Butembo, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que l'honorable Franck a dit tout à l'heure, même le professeur. Je crois, honorable Franck Diongo, nous devons être cléments lorsque nous voulons juger l'action de Joseph Kabila, puisqu'il est connu de notoriété que nous n'avons pas l'âge de Joseph Kabila, et encore moins l'âge qu'il avait en 2000. En 2001. Je voudrais également dire que vous parlez des taux de pauvreté, de chômage, de mortalité, mais vous ne les comparez pas avec d'autres taux avant 2001. puisque ça, c'est ça le problème. Je crois qu'il ne faudra pas simplement qu'on se limite à citer les taux, mais il faut les comparer à d'autres taux avant l'avènement du règne de Joseph Kabila. Ça, c'est ce que vous ne dites pas. Quand vous parlez du secteur de l'énergie, on n'a pas privatisé la SNEL, il ne faudra pas que l'on trompe le peuple, on n'a pas privatisé la régie des eaux, mais simplement qu'il y a des lois pour libéraliser le secteur de l'énergie. Et là, c'est connu, d'ailleurs nous nous plaignons tous les jours, il y a des gens qui disent qu'il ne faudra pas que l'on laisse la seule entreprise exploitée dans le domaine de l'énergie, il faut qu'on crée de la compétitivité pour permettre à ce qu'on améliore également les services. Mais quand vous parlez de l'électricité, vous parlez de plus ou moins 6%, les chiffres exacts c'est plus ou moins 7%, mais vous ne me dites pas quel était le chiffre de la desserte en électricité avant 2001.
Je vous informe qu'il y a eu une amélioration,
non, il y a eu amélioration, c'était même moins de 4%. Et là, je donne les exemples, dernièrement, on a inauguré une centrale hydroélectrique au Nord Kivu, bientôt ça sera dans l'ancienne province du Kasaï. Vous parlez de la faiblesse de salaire. Je suis d'accord et je voudrais bien vous dire que les attentes sont multiples et les attentes de notre peuple sont même complexes. Je ne peux pas confirmer ici que Joseph Kabila a répondu à toutes les attentes. Non. Le pays là où il a trouvé, c'était vraiment un pays à des situations compliquées. Donc nous étions très profonds qu'aujourd'hui Joseph Kabila a fait quand même quelque chose. Il faut reconnaître même si tout n'a pas été fait. Mais je voudrais terminer avec la question de votre auditeur de Boutembo. Oui, j'ai dit pour notre ami auditeur de Boutembo, pour lui dire qu'il a reconnu bien l'organisation des élections, le processus électoral, il reconnaît bien les droits de l'homme, je voudrais bien lui dire qu'il y a encore des efforts à faire quant à ce qui concerne les conditions de vie, ça doit encore être amélioré.
Merci M. Mouenze. M. Dung, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu dans le Maniema.
Alphonse Binyangi depuis Kindu dans la province du Maniema. Les chefs de l'État congolais a un bilan globalement positif à 66%. Il y a au moins une trace dans tous les domaines de vie en démocratique du Congo. À Kinshasa comme à l'intérieur, il y a des constructions des routes en terre bâtie comme goudronnée, construction des écoles, certains coins ont même reçu des centres hospitaliers, l'école primaire gratuite pour tous, quel que soit minime, n'existe plus dans les dictionnaires congolais les mots arriérés de salaire. Sur 15 ans déjà écoulés par le chef de l'État, il y a 9 ans qu'on peut compter.
Alors, honorable Dongo, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de cet auditeur? Vous allez aussi conclure après avoir réagi à son point de vue.
Ou soit que mon frère qui vient de parler est sous-informé, ou il fait du fanatisme. Tenez, parler de la gratuité de l'éducation, c'est une honte pour la République. Est-ce que vous-même, vous savez que l'éducation est gratuite à l'école primaire? Non! Quand on parle des écoles, des routes construites, n'oublie pas, j'ai parmi mes diplômes, j'ai un diplôme d'ingénieur conseil de construction. Vous savez que je connais le nombre de kilomètres du Congo. Comme expert, Monsieur Kabila n'a pas construit, monsieur, 10% sur la totalité des routes du Congo. En termes d'asphaltage, Monsieur Kabila n'a pas asphalté 10% par rapport à ce qu'il a trouvé à 15 ans. Donc ici, sur tous les plans, tout est négatif. Alors du côté de...
Vous allez conclure, nous reste 2 minutes.
Oui, je vais conclure, ce qu'il faudra noter ce soir, c'est que Monsieur Kabila est un espoir déçu, son bilan est totalement négatif. Le seul cadeau qu'il doit donner aux Congolais, c'est d'organiser les élections, rester un sénateur à vie et partir, parce que pendant 15 ans, il n'a rien fait, il ne peut que préparer les valises.
Merci,
et être
monsieur,
un sénateur à vie.
Merci M. Dungo. Professeur, votre conclusion?
Pour conclure, j'irai dans le sens de...
Même les cartes d'identité, pendant 15 ans, M. Kabila n'a pas été capable de donner aux Congolais une carte d'identité, monsieur.
Merci.
Une personne qui ne donne pas les cartes d'identité, qu'est-ce qu'il peut donner aux Congolais?
Merci, M. Dungo, merci. Professeur, conclusion.
Je conclue en reprenant un tout petit peu la réflexion de mon ami Amato Bayoubassiré qui me disait qu'il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Mais, s'agissant du Congo, je pense que ce qu'on peut donner comme conseil au président de la République, c'est qu'il faut cheminer vers l'idéal en tenant compte du réel, et le réel nous inquiète tous, et il peut nous donner espoir aussi.
Merci, professeur. Monsieur Mouenze. mot de conclusion.
Non, je voudrais simplement dire que l'honorable Frank Diongo, certes qu'il a, il est déçu puisqu'il avait beaucoup d'attentes, mais la vérité c'est que des choses ont été faites et il ne peut pas confirmer que rien n'a été fait.
Merci,
donc
Monsieur
beaucoup
Mente.
De choses ont été faites,
merci,
mais peut-être
Mente.
Que tout n'a pas
on
été
vous a
fait.
Compris, c'est la fin
c'est
de
ce que
cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Allez, vous, Guimati et Berry Frankel, Luchaka sous la supervision de Julien Nyamweni. Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la prise de son. Au micro, Kéline Couté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net, 22 programmes sur la fréquence de la paix.